Le débat africain, Namouri Dosso.
Bienvenue dans votre émission, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du débat africain sur RFI. Ce samedi, place de nouveau au regard des éditorialistes du continent. Comment l'actualité marquante cette semaine a-t-elle été perçue de Ouagadougou à Cotonou en passant par Conakry ? Nos consoeurs et confrères nous livrent leur point de vue sur ce monde en perpétuel mouvement. Dans la deuxième partie de ce débat africain, nous reviendrons sur la visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord. Les dirigeants russes et nord-coréens qui affichent leur défiance contre ce qu'ils nomment l'hégémonie américaine. Les deux hommes ont signé cette semaine un accord de défense mutuelle. L'occasion pour Vladimir Poutine de remercier son hôte pour son soutien dans la guerre qu'il a déclenchée il y a maintenant 2 ans en Ukraine. Nous parlerons également de Joe Biden, le président américain en campagne pour sa réélection en novembre prochain. Il souhaite régulariser des centaines de milliers d'immigrés mariés à des Américains. Juste après avoir durci la politique migratoire face aux arrivées de migrants à la frontière avec le Mexique, alors comment analyser ce va-et-vient de la part du président américain en ce qui concerne l'immigration illégale devenue un sujet majeur au sein de la campagne aux États-Unis. On en parle tout à l'heure. Mais tout de suite, nous allons tenter d'y voir un peu plus clair quant à la situation au Burkina Faso. Depuis l'attaque de Mansilla le 11 juin, au cours de laquelle plus d'une centaine de soldats burkinabés ont été tués et certains pris en otage par les djihadistes du JNIM. Certaines sources ont fait état d'une grogne au sein de l'armée burkinabé, ce qui a été démenti ce jeudi par le capitaine Traoré, président de la transition. La transition burkinabé, justement, serait-elle en train de tanguer sur fond de tension au sein de l'armée ? Nous posons la question à nos invités. Avec nous en studio, Ahmed Newton Barry, journaliste et ex-président de la commission électorale burkinabé. De Cotonou, Cécile Goudou, journaliste au sein de l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Enfin, en ligne de Conakry en Guinée, Boubacar Sansobari, éditorialiste et directeur de publication du site d'information lejelly.com. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous.
Bonjour.
C'est rien d'important. Nous, on ne fuit pas. Jamais. Nous sommes soldats et ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas et on ne s'agenouille devant personne, à part nos parents et Dieu. Ils se chatouillent eux-mêmes et puis ils rient. Sinon, nous, on est là, on continue de travailler, on est avec vous chaque matin, on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Et je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. Voilà, sinon ils n'en ont absolument rien. Nous sommes là, on travaille.
Nous sommes là, on travaille. Déclaration du capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition, ce jeudi sur l'antenne de l'ORTB au Burkina Faso. Une intervention destinée à lever la confusion qui régnait ces derniers jours dans le pays. Le 12 juin, une roquette est tombée dans la cour de la radiodiffusion télévision du Burkina, non loin de la présidence burkinabé. La trajectoire et l'explosion de cet obus a relancé un certain nombre de spéculations au sujet d'une nouvelle tentative de déstabilisation contre les militaires au pouvoir. Ce nouvel épisode au pays des hommes intègres est devenu au lendemain d'une attaque djihadiste meurtrière contre des éléments de l'armée burkinabé dans la localité de Mansilla, dans le nord-est du pays, près du Niger. Aucun bilan officiel n'a été annoncé par les autorités, mais selon des sources sécuritaires, cette attaque aurait fait une centaine de morts dans les rangs de l'armée burkinabé. Après le tir de roquette, Ibrahim Traoré se serait évaporé dans la nature pendant 48 heures avant de refaire surface avec une réapparition savamment orchestré. La dernière date est intervenue ce jeudi dans l'enceinte même de l'ORTB où le missile en question est tombé. Ahmed Newton Barry, journaliste et ex-président de la commission électorale au Burkina, selon vous, ce à quoi on assiste dans votre pays, c'est quoi ? Une tentative de renversement du pouvoir ou, comme le dit Ibrahim Traoré, un emballement médiatique ?
Moi, je n'ai jamais vu un emballement médiatique sur le vide. Ça n'a jamais existé. On part d'un élément, évidemment, qui est tout à fait factuel et qui s'est produit, c'est-à-dire que le 12 juin, mercredi, dans l'après-midi, au moment où le Conseil des ministres se tient, une roquette tombe dans la cour de la radio-télévision nationale, la RTB. Et à partir de là...
Radio qui se situe juste à côté de la présidence, il faut le préciser.
Ce n'est pas très loin, c'est-à-dire à 100 mètres maximum, même pas, peut-être moins de 100 mètres de la présidence. À partir de là, évidemment, les événements s'enchaînent. Mais ce n'est pas le fait des médias. C'est le fait aussi de la réaction des autorités par rapport à cette situation.
Alors, selon Ibrahim Traoré, cité dans un communiqué de la présidence, en voulant vérifier un certain nombre de choses, malheureusement, quelqu'un a fait partir le coup et la roquette s'est dirigée dans la cour de la RTB. D'après le président de transition, il s'agissait d'un incident. Vous y croyez ?
Non. Ce qui est constant et qui est relevé par les sources assez crédibles, c'est qu'il y a eu un mouvement d'humeur dans la garde rapprochée de Ibrahim Traoré. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il y a ces incidents autour de la garde présidentielle. Cette année, depuis février, c'est le troisième incident. Et les premiers n'étaient pas assez graves, c'était plutôt ce qu'on considérait comme une attaque, en tout cas un individu qui s'en prendrait à la garde.
Alors, rappelons que cette situation confuse au Burkina Faso est intervenue après une attaque djihadiste particulièrement meurtrière à Mansila, dans le nord-est du pays. Une grogne au sein de l'armée a été évoquée par certaines sources sécuritaires, mais pour le capitaine Ibrahim Traoré, il n'en est rien.
Le mouvement d'humeur, c'est faux, il n'y a rien eu. Et ça fait que hier ou c'est avant-hier là, l'état-major était obligé de communiquer. Mais nous ne voulions même pas qu'il communique. Mais c'est parce que les parents des soldats d'Ori ont commencé à les appeler. On a appris que c'est vous qui voulez vous mutiner ou quoi. Les enfants disent, ils sont en opération même. D'autres sont vers Mansila, d'autres sont vers Bani en opération. Et les parents les emmerdaient beaucoup. Donc ils ont demandé à ce que, est-ce que l'état-major peut communiquer vraiment pour qu'on arrête de les emmerder, les laisser se concentrer sur leurs opérations. Vous voyez ce qu'ils font ? C'est pas bien.
Boubacar Sansoubari, éditorialiste et directeur de publication du site d'information lejelly.com à Conakry en Guinée. Le capitaine Ibrahim Traoré l'affirme, il n'y a pas de mouvement d'humeur au sein de l'armée burkinabé. Est-ce que ces explications vous convainquent ?
Ce qui est sûr, c'est que le silence entretenu durant les 48 dernières heures, je veux dire avant sa sortie à l'enceinte de la RTB, ne rassure pas. Et puis, dans cette intervention, vous aurez remarqué, à aucun moment il n'a évoqué Mansila. Ce silence-là aussi est peut-être évocateur d'un non-dit, d'une tension qui couvre. Parce que vous savez que les deux précédents présidents étaient partis dans des contextes plutôt similaires. D'ailleurs, pour les deux anciens présidents, les massacres étaient d'une moindre ampleur. Cette fois-ci, on est en train de parler d'une centaine, peut-être, voire de plus de 100 soldats tués dans l'attaque à Mansila. Donc, tout cela intervient dans un contexte où il n'y a pas une source d'information indépendante pratiquement. C'est-à-dire les médias burkinabés ne peuvent pas se prononcer sur tout ça. On est situé entre la version officielle des autorités burkinabées qui ne peut pas nécessairement être objective et celle notamment source sécuritaire contactée par les médias étrangers qu'ils taxent de vendus.
Précisons d'ailleurs à ce sujet que nos confrères de la télé TV5 Monde ont été suspendus ces derniers jours en raison de leur traitement de l'information au Burkina Faso. Cécile Goudou, au Bénin, y aurait-il de la part des autorités burkinabées une minimisation de ce qui s'est passé ces derniers jours au Burkina ? Ce n'est pas tous les jours qu'un obus tombe près de la présidence.
Il y a Ahmed et Boubacar, l'ont rappelé vous aussi, c'est un enchaînement d'événements ces dernières semaines. Et que Ibrahim Traoré finisse par se prononcer de façon laconique sur la situation et n'évoque même pas le massacre de Mansila, moi je trouve qu'il y a une minimisation de la situation. Et ce silence entretient vraiment la spéculation. Et si la junte au pouvoir ne voulait pas qu'il y ait tous ces questionnements, toutes ces interrogations, c'est au régime de pouvoir communiquer de façon officielle. Que Ibrahim Traoré dise aujourd'hui, il n'y a rien, nous on est là, on travaille, alors qu'il y a eu plus d'une centaine de militaires, de civils massacrés à Mansila quelques jours plus tard. Un obus tombe dans la cour de la télévision et puis ça s'enchaîne. On estime que tout va bien, c'est parce que même les parents des militaires...
Diriez-vous que les autorités burkinabées sont dans une forme de déni par rapport à la situation dans le pays ?
Soit un déni ou bien une volonté de couvrir, d'entretenir un flou autour de ce qui se passe, parce que ça se passe devant tout le monde. Il y a une situation d'insécurité qui est là et que la junte au pouvoir, les autorités n'en parlent pas ou disent il n'y a rien. C'est là qu'il y a un problème, c'est cette posture de la junte qui fait poser des questions sur la France. Moi, je lis une certaine fragilité du pouvoir de transition ces dernières semaines. Et comme le disait Boubacar tout à l'heure, c'est dans ces conditions que Traoré aussi, avec ses camarades, ont fini par faire le coup d'État à Paul-Henri Damiba. La raison évoquée, c'était les attaques terroristes qui se multipliaient. Ils ont estimé que Paul-Henri Damiba n'arrivait plus à contrer l'attaque djihadiste. Mais c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et si on minimise ça, on banalise ça par une telle déclaration officielle, il y a un malaise.
Vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, pendant 48 heures, le capitaine Ibrahim Traoré avait disparu de la circulation, ce qui a contribué à alimenter un certain nombre de rumeurs et d'interrogations, hein, quant à sa possible exfiltration du pays. Ahmed Outombari, s'il s'agissait d'un accident, comme il l'a dit jeudi sur les antennes de la RTB, pourquoi s'être évaporé pendant 48 heures selon vous ?
Évidemment, si c'était un incident, la réaction la plus naturelle aurait été que soit immédiatement ou le lendemain, un des ministres porte-parole puisse se prononcer, d'autant plus que la présidence n'est pas très loin de la RTB. Deuxième élément, bon, cette affaire-là, vous savez, nous sommes dans un contexte aussi où les juntes ont érigé le mensonge en tactique de gestion de l'État. Maintenant, vous savez, je vous raconte ça, mais bon, c'est ce qui se dit depuis un bout de temps. Il s'agirait donc, vous connaissez un peu le terme russe Maskirovska, qui voudrait dire donc une sorte de stratégie de dissimulation russe qui consiste donc à se dissimuler pour pouvoir mieux voir ses ennemis sortir de l'ombre, les cueillir et donc les anéantir.
Donc il se serait dissimulé, il n'a pas disparu pendant 48 heures, c'est ça?
Donc, dans la logique de l'explication de Ibrahim Traoré, c'est qu'il s'est saisi d'un incident qui est vrai pour se cacher et puis donc pour voir apparaître ses ennemis internes et ses ennemis extérieurs. Et puis évidemment pour laisser la presse internationale s'embourber dans des explications qui n'ont ni tête ni queue. Et lui, il réapparaît donc hier. Voilà un peu la situation anecdotique telle qu'elle apparaît. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas dire pendant un mois, il y a eu 40 policiers tués à Koulpelgo, environ 70 gendarmes tués dans la même province, la semaine ou les deux semaines qui ont suivi. Et puis nous avons Mansila, à près de 107 ou 117, c'est en fonction des données.
Est-ce à dire que le pouvoir burkinabé a perdu le contrôle sur toute une partie du pays alors qu'il ne cesse de dire qu'il est en train de reprendre le dessus?
C'est-à-dire qu'on ne peut pas subir ces séries de revers et dire qu'on est en train de triompher. Ça va contre la logique. C'est ça le problème.
Boubacar Sansobari à Conakry, hein, toute cette histoire a permis de faire émerger une question, hein, celle de la sécurité personnelle, hein, du capitaine Ibrahim Traoré. Selon vous, serait-elle remise en question après l'incident avec cet obus?
Oui, je pense d'ailleurs que la sécurité autour de lui, elle a souvent ces derniers temps été évoquée. Et c'est à se demander, il faut même interroger le rapport entre les avions, entre Gao et Ouaga qui ont été annoncés ces dernières...
Oui, parce que c'est un des autres faits marquants, hein, ces derniers jours au Burkina Faso.
Voilà.
Entre 80 et 120 soldats maliens accompagnés de leurs supplétifs russes de Wagner, désormais appelés Africa Corps, sont arrivés à Ouagadougou. Comment est-ce que vous interprétez ces arrivées, vous?
Justement, est-ce qu'il ne faut pas trouver un lien entre le fait qu'il a peut-être attendu que ces soldats arrivent au Burkina pour réapparaître? Je ne présume de rien, mais je me demande s'il n'y a pas une connexion.
L'arrivée de ces soldats, ça pourrait être également la manifestation de la solidarité des pays de l'AES, hein, qui sont regroupés autour du Burkina Faso, du Niger et du Mali. N'est-ce pas tout simplement un acte de solidarité pour lutter contre le djihadisme dans
mais
le pays?
Est-ce qu'on a besoin de solidarité quand un président d'un pays dit qu'il n'y a rien? A priori, on n'a pas besoin de solidarité. Et puis, il n'a pas évoqué Mansila comme étant un problème. Il a juste évoqué incidemment pour expliquer les vols des hélicoptères. Ça ne peut pas logiquement expliquer l'arrivée de soldats en solidarité.
Je redonne la parole à notre confrère à Conakry, Boubacar Sansobari.
Par rapport à ce qu'Ahmed disait, à savoir peut-être que c'est une tactique, c'est une stratégie pour faire sortir les ennemis du bois. Je pense que cette description des choses, ça conférerait à Ibrahim Traoré un statut de héros, de tacticien, de grand stratège. Moi, je pense que cette fois-ci, les choses sont allées un peu plus loin. Par le passé, il s'en est servi, mais peut-être que cette fois-ci, il a relativement, pendant ces quelques 3-4 jours, perdu le contrôle, parce qu'on ne peut pas imaginer que les choses se soient passées normalement au sein de l'armée burkinabé après l'hécatombe de Mansila. On l'a déjà dit, par le passé, des bilans moins importants ont suscité le départ des présidents. J'imagine que cette année aussi, ça a dû faire mal au sein de l'armée burkinabé. Je ne sais pas si c'est allé jusqu'à susciter un renversement du régime, mais on imagine que les gens n'ont pas célébré ce qui s'est passé. Et d'autant que les autorités sont dans le déni, parce que le fait de ne pas mentionner ça, le fait de sortir du jour au lendemain pour dire que rien ne s'est passé, tout cela participe du déni.
Alors, lors de la déclaration de Ibrahim Traoré devant nos confrères de la RTB, ce jeudi, le capitaine, président de la transition au Burkina, a donné sa vision de la situation au Burkina Faso. Et selon lui, ceci n'aurait qu'un but, faire fuir les investisseurs.
L'un des objectifs, c'est de faire peur aux investisseurs pour dire que le Burkina est instable, le Burkina ne peut pas. Vous savez que le Burkina fait partie, depuis 2023, là, des 10 pays les plus attractifs en Afrique. Les investisseurs veulent venir au Burkina parce qu'ils voient de la vision. Ils voient que ce pays peut se développer avec ce qu'on nous sommes en train d'entreprendre. Donc il y a beaucoup de gens qui nous visitent, qui viennent pour investir au Burkina. Et quand ils font ça, ça fait peur aux investisseurs. C'est leur objectif. Donc c'est dire à ceux de Burkina de l'extérieur et d'autres investisseurs qui veulent venir au Burkina, c'est archi faux ce qu'ils racontent. Le Burkina est bien stable. Ils peuvent venir. Ils peuvent croire au Burkina. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ces médias mensonges-là, c'est des faits qu'ils racontent. Voilà, c'est l'un de leurs objectifs. Ils ont un plan en tête, c'est sûr. Mais nous sommes aussi au courant. On les attend de pied ferme. Et nous allons les apporter la réponse qu'il faut. Et ceux aussi qui sont à l'intérieur, qui continuent de manipuler avec eux, ils vont nous comprendre. Maintenant, c'est fini, c'est sans pitié.
Cécile Goudou à Cotonou, au Bénin, le capitaine Traoré l'affirme. Son pays est stable, les investisseurs se bousculeraient pour venir investir dans le pays. Les déclarations du capitaine, qu'est-ce qu'elles vous inspirent ?
La dernière phrase du capitaine, il a dit que c'est sans pitié. J'aurais voulu qu'il soit sans pitié avec ceux qui attaquent les Burkinabés depuis quelques semaines et que son armée n'arrive vraiment pas à contrer. En écoutant Ibrahim Traoré, moi, j'entends quand même un président totalement hors sol, déconnecté de la réalité dans son propre pays. Soit il n'était pas au courant, ou soit il refuse de comprendre qu'il y a une situation d'insécurité palpable sur place au Burkina Faso. Et face à ça, les investisseurs ne vont pas venir. Maintenant, si je parle de son développement, qui a intérêt que les investisseurs n'aillent pas investir au Burkina aujourd'hui? Si Ibrahim Traoré a des cibles dans son viseur, bien veut mettre certaines personnes, bien des pays ou des médias, veut les indexer, qu'il le fasse clairement et puis poser le problème. Parce que quand on dit tout ce qui se passe, c'est pour que les gens ne viennent pas, le Burkina est devenu attractif. Le Burkina, depuis quelque temps, avec ses successions de coups d'État, les coups d'État n'ont jamais rassuré aucun investisseur. Qu'il y ait de la conspiration interne ou pas, les coups d'État, cette instabilité politique n'attire jamais les investisseurs. Donc que le capitaine commence par avancer un langage de la conspiration, des coups pour contrer le Burkina, non, c'est pas ça.
Ahmed Newton Barry, ce à quoi on assiste au Burkina Faso, n'est-ce pas l'illustration de l'échec des militaires qui se sont emparés du pouvoir et qui avaient promis de régler la question sécuritaire?
Mais vous voyez qu'en fait, ils ne parlent même plus de sécurité. Il ne parle plus de lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, il est vent debout contre ceux qu'il considère comme ses ennemis à lui, les ennemis de son régime, qui sont en interne ou qui sont à l'extérieur, les Burkinabés qui ne disent pas la même chose que lui, qu'il considère comme des apatrides et dont il dit qu'il sera sans pitié avec eux. Donc finalement, comme disait ma sœur Cécile Goudou au Cotonou, nous on aurait été très heureux qu'il soit sans pitié contre les terroristes. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour être sans pitié contre d'autres Burkinabés. Mais soit dit en passant, si le Burkina est attractif, ça va se savoir. Peut-être des Russes, comme c'est le partenaire principal du Burkina aujourd'hui, mais même les investisseurs burkinabés, ceux qui ont un peu d'argent, ont fui le pays. La majorité d'entre eux, il y a des statistiques données il y a juste un an, on peut se référer à ces données-là, des institutions sous-régionales. Ceux qui investissent le plus aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce sont les Burkinabés, parce que c'est l'un des débouchés, évidemment, des opérateurs économiques qui fuient le pays.
L'actualité au Burkina Faso, on continue de la suivre, hein, bien évidemment, sur Radio France Internationale, notamment à travers la revue de presse Afrique présentée chaque matin par Frédéric Couteau et Catherine Poté. Merci d'être avec nous. On va faire une courte pause dans le débat africain. Juste après, nous parlerons du voyage de Vladimir Poutine en Corée du Nord ou encore des États-Unis avec Joe Biden qui souhaite régulariser des centaines de milliers d'immigrés mariés à des Américains.
Le débat africain, Namori Dosso.
Merci d'être avec nous dans la seconde partie du débat africain sur RFI, une émission consacrée cette semaine au regard des journalistes et éditorialistes africains sur les temps forts dans un monde en perpétuel mouvement. Trois confrères et consoeurs du continent nous accompagnent. En studio avec nous, Ahmed Newton-Barry, journaliste et ex-président de la commission électorale au Burkina Faso. De Cotonou, Cécile Goudou, journaliste au sein de l'ORTB, l'office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Enfin, en ligne de Conakry, en Guinée, Boubacar Sansobari, éditorialiste et directeur de publication du site d'information lejelly.com. C'est dans une ambiance digne des plus grands parcs d'attractions que Vladimir Poutine a été reçu cette semaine à Pyongyang, la capitale nord-coréenne. Une première pour le maître du Kremlin depuis 24 ans. Le président russe et Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen qui estime lutter ensemble contre l'hégémonie américaine, ont signé ce mercredi un accord de défense mutuelle. Ce texte prévoit entre autres une assistance mutuelle en cas d'agression contre une des parties au traité. Un document véritablement révolutionnaire. Selon Vladimir Poutine.
Le traité de partenariat global signé aujourd'hui prévoit entre autres une assistance mutuelle en cas d'agression contre l'une des parties à ce traité. La Russie et la Corée mènent toutes deux une politique étrangère indépendante et n'acceptent pas le langage du chantage et du diktat. Il s'agit véritablement d'un document de rupture qui reflète la volonté des deux pays de ne pas se reposer sur leurs lauriers, mais d'élever leurs relations à un nouveau niveau qualitatif. La Fédération de Russie n'exclut pas une coopération militaro-technique avec la République populaire démocratique de Corée dans le cadre du traité signé aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine, lors de sa visite à Pyongyang cette semaine, la visite du dirigeant du Kremlin en Corée du Nord est qualifiée d'inquiétante par certains pays occidentaux. Boubacar Sansobari à Conakry en Guinée, comment est-ce que vous qualifiez cette visite ?
Alors je pense que cette visite s'inscrit dans la logique pour Vladimir Poutine d'essayer de rompre...
Il n'y a pas matière à s'inquiéter ?
Pas particulièrement selon mon point de vue. Elle est, d'un point de vue symbolique, ça peut être important, mais par exemple qu'ils annoncent une assistance mutuelle en cas d'agression d'une des parties, je pense qu'on n'irait pas jusque-là, même si Poutine et Kim Jong-un, c'est jamais prévisible, mais je ne pense pas, c'est plutôt un truc symbolique. Moi, je pense plutôt que Poutine est dans une logique, au-delà de la Corée du Nord, d'essayer de rompre un peu l'isolement dans lequel il se retrouve du fait des sanctions du bloc occidental notamment, parce que ça c'est important pour lui.
Mais justement, est-il si isolé que ça? Parce qu'il bénéficie quand même du soutien, on vient de le voir, de la Corée du Nord ou encore des pays dits parias comme l'Iran.
Oui, alors quand vous dites Corée du Nord, Iran, mais vous mettez de l'autre côté la Chine qui n'est pas nécessairement d'accord sur tous les points avec l'Occident, mais qui ne partagerait pas nécessairement tout non plus avec la Russie. Vous avez la Turquie, vous avez l'Inde.
Donc la Russie n'est pas si isolée que ça en fin de compte.
Le fait de collaborer ou de signer ce type d'accord avec la Corée du Nord et l'Iran ne veut pas nécessairement dire qu'il est si connecté, grappille ce qu'il peut grappiller, mais ce n'est pas non plus en dehors du continent africain où quand même il y a une forte avancée de la Russie. Les amis de la Russie ailleurs aujourd'hui ne comptent pas nécessairement beaucoup.
Alors rappelons que la Russie et la Corée du Nord sont alliés depuis la fin de la guerre de Corée qui a eu lieu entre 1950 et 1953. Les deux pays se sont rapprochés depuis la guerre. Déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine, c'était en février 2022. Cécile Goudou, au Bénin, cette visite a-t-elle été commentée dans les médias de votre pays?
Oui, la visite de Poutine en Corée du Nord a été abondamment commentée. Et ce qui ressort de façon globale, c'est un peu comme ce que disait Boubacar depuis la Guinée. On voit beaucoup plus à travers le contenu de cette alliance militaire signée une opération communicationnelle, sur fond de guerre en Ukraine, pour montrer que en tant que la Russie a également des alliés, et pour montrer que les relations entre Pyongyang et Moscou ont beaucoup avancé de manière significative depuis leur rencontre de Vladivostok en septembre dernier. Moi, je vois que ça fait un peu effet d'annonce. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'aujourd'hui la Corée du Nord se déploie aux côtés de la Russie dans la guerre en Ukraine, est-ce qu'on va voir peut-être la Russie se déployer aux côtés de la Corée du Nord face à Séoul, par exemple, qui est quand même l'ennemi juré de la Corée du Nord aujourd'hui.
Et d'ailleurs, à ce propos, hein, Vladimir Poutine a poursuivi sa visite en Asie et il a notamment estimé que si la Corée du Sud fournissait des armes à l'Ukraine, eh bien, ce ne serait pas nécessairement une bonne idée. Après cette visite en Corée du Nord, Vladimir Poutine brise le cordon sanitaire que les Nations Unies ont mis en place autour du régime nord-coréen. Amen, Newton Barry, selon vous, cette stratégie qui consiste à remettre en cause l'ordre international a-t-elle des chances de fonctionner ?
Pour l'instant, elle fonctionne parce qu'il faut dire aussi que l'ordre international qui est issu de 1945 est aujourd'hui en pleine crise. Et donc les Nations Unies particulièrement sont dans de grosses difficultés. Et l'Europe, on va peut-être, je ne sais pas si on en parlera cette fois, mais on regarde un peu avec les élections européennes, la montée de l'extrême droite au sein de l'Union européenne et qui inquiète, donc qui remet en cause l'internationalisme sorti, en tout cas issu de 1945, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est possible que Poutine veuille aller vers ça, mais il n'est pas seul. Je pense qu'il y a un certain nombre de pays aujourd'hui qui essaient de se constituer. C'est le cas par exemple des BRICS qui se constituent pour essayer de faire bloc ou faire pièce au bloc occidental. Mais en ce qui concerne la Russie et la Corée, moi je devrais dire dont acte, c'est-à-dire aussi qu'il faut reconnaître que la Corée du Nord, dans la guerre, la Russie contre l'Ukraine, fournit un certain nombre d'armements et je pense que les contrats...
C'est justement une des questions, est-ce qu'en fin de compte cette visite, elle n'est pas destinée justement à avoir accès aux stocks d'armements nord-coréens ?
Je ne crois pas que la Corée du Nord ait des stocks extrêmement importants et je vais dire de pointe pour servir dans le cas de la guerre en Russie contre l'Ukraine, mais ils peuvent produire un certain nombre d'obus ou un certain nombre d'armements spécifiques qui peuvent être utiles à la Russie dans le cadre de sa guerre.
Dans le passé, le pouvoir russe n'a pas toujours été très chaleureux avec la Corée du Nord. Boubacar Sansobari, comment est-ce que vous expliquez, vous, ce tournant opéré par la Russie ?
Les impératifs du moment, Ahmed évoquait tout à l'heure la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, c'est comme si la Russie était forcée d'aller chercher d'autres partenaires parce que ça fait quand même 2 ans que la Russie se bat en Ukraine. Les choses n'ont pas fondamentalement marché comme Poutine l'espérait. Et au-delà de l'isolement, la guerre, il l'a dit tout à l'heure, ça nécessite des armes qui ne sont pas toujours disponibles, en tout cas au rythme qu'on voudrait. Donc aujourd'hui, oui, la Russie est obligée d'aller vers d'autres partenaires. Mais je disais aussi que la Russie, qui est dans une espèce de reconquête ou de conquête du monde, notamment en Afrique, a besoin de s'entourer d'un certain nombre de partenaires pour peser suffisamment aux yeux de ses partenaires qu'elle cherche à conquérir.
Cécile Goudou au Bénin, en se rendant dans des pays qualifiés par certains États de paria, Vladimir Poutine, est-ce qu'il ambitionne pas de se placer en tête de pont des pays du Sud global ?
C'est quand même un positionnement stratégique pour pouvoir devenir leader, tête de pont dans ces pays-là et former un bloc, comme le disait Ahmed tout à l'heure. Ils n'ont pas caché ça. Et Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen, ils ont affirmé leur lutte ensemble contre l'hégémonie américaine. Ce sont les mots qu'ils ont utilisés. Donc on sent au-delà de ce contrat de marché militaire par rapport à la guerre en Ukraine, et la poursuite de la visite de Vladimir Poutine dans d'autres pays dans la région, on sent cette envie de constituer quand même un certain bloc, un certain groupe autour de la Russie maintenant pour pouvoir faire face au bloc occidental.
Alors on l'a encore entendu à Pyongyang lors de ce voyage, Vladimir Poutine se drape dans un discours anti-impérialiste. Mais n'y a-t-il pas une forme de paradoxe chez le dirigeant russe quand on voit ce que fait son armée en Ukraine, Ahmed Newton Barry ?
Mais justement, c'est ce paradoxe-là qui est malheureusement, je fais toujours le parallèle avec le continent africain. Vous savez très bien aujourd'hui que nombre de panafricanistes, ou en tout cas ceux qui se réclament comme tels, sont vent debout contre l'impérialisme. L'impérialisme occidental, mais personne ne parle de l'impérialisme russe, qui aujourd'hui met à mal tous les pays qui sont aux alentours, évidemment, de cette puissance-là, qui donc, comme vous savez, ambitionne être la tête de pont ou la tête de proue d'une réorganisation mondiale qui ferait pièce aux États-Unis, qui est aussi leader du monde occidental.
Et la situation en Russie, en Ukraine, on continue d'en parler tous les jours sur Radio France Internationale à travers les journaux de la rédaction.
Le débat africain.
Venons-en à un autre sujet qui a retenu notre attention cette semaine. Il s'agit de l'annonce du président américain. Joe Biden souhaite régulariser quelques 500 000 migrants mariés à des Américains.
Aujourd'hui, j'annonce une solution de bon sens visant à simplifier la procédure d'obtention du statut légal pour les immigrants mariés à des citoyens américains qui vivent ici depuis longtemps. Pour ces épouses ou époux et leurs enfants qui vivent aux États-Unis depuis une décennie ou plus, mais qui sont sans papier, cette mesure leur permettra de déposer un dossier pour obtenir un statut légal aux États-Unis et de travailler tout en restant avec leur famille aux États-Unis.
C'est une très bonne nouvelle que les familles mexicaines vivant aux États-Unis soient régularisées, en particulier les étudiants et les jeunes. Il faut saluer le fait que le président Biden agisse de la sorte. Le fait que Joe Biden ait pris cette décision montre bien qu'il est un homme de conviction et qu'il propose d'autres options en matière d'immigration. Je lui ai dit au téléphone qu'il restera dans l'histoire comme le président qui n'a pas construit de murs, mais qui a construit des ponts.
Le président qui restera dans l'histoire comme celui qui construit des ponts et non des murs. Cécile Goudou au Bénin, qu'est-ce que vous inspire l'annonce faite par Joe Biden cette semaine au sujet de la régularisation de ces quelques 500 000 migrants aux États-Unis?
Moi, je pense que Joe Biden cherche à équilibrer, à jouer l'équilibriste parce que ces derniers temps, l'administration Biden a durci encore le ton contre les migrants, même si on se rappelle qu'en 2020, Joe Biden, lors de la campagne, avait promis stopper la construction du mur à la frontière, entamé par Trump. Entre-temps, il a durci le ton en annonçant qu'il faut quand même construire ce mur-là. Et du coup, ces mesures sont censées, à mon avis, compenser un peu l'impression que Joe Biden avait trop cédé à la droite.
Alors, on a entendu il y a quelques secondes Manuel López Obrador, le président mexicain, qui a salué la décision du président américain, alors que ces mesures de régularisation tranchent avec les décisions prises quelques semaines avant par Joe Biden. C'est ce que vous avez sous-entendu, Cécile Goudou, parce que le président américain, en campagne pour la présidentielle de novembre prochain, avait annoncé la fermeture temporaire de la frontière mexicaine aux migrants clandestins en cas d'augmentation prononcée des arrivées illégales. Boubacar Sansobari à Conakry, selon nos confrères de New York Times, cette nouvelle annonce n'a rien de surprenant. Est-ce que vous partagez leur analyse?
À la base, les candidats démocrates sont plus portés sur des politiques migratoires incitatives, à la base. Il est vrai que ces dernières années, les questions migratoires, aussi bien aux États-Unis que dans d'autres pays, ont souvent fait l'objet d'instrumentalisation sur la base de visées électorales. Mais je dis instrumentalisation parce que, en réalité, je ne sais pas si, dans l'absolu, il y a un camp aux États-Unis qui soit porté véritablement à lutter contre l'immigration. On peut réformer à la marge, mais les États-Unis ont intérêt à ce que la migration, ont des intérêts dans la promotion de la migration. J'ai lu dernièrement des articles, notamment une projection qui laisse croire que dans les 10 prochaines années, l'immigration viendrait renforcer l'emploi aux États-Unis à hauteur de 5 millions de travailleurs et que ces 5 millions rapporterait jusqu'à 7 000 milliards de dollars à la croissance du PIB américain. Je ne sais pas s'il y a un candidat, il y a un leader qui compte aux États-Unis qui peut ignorer ces réalités-là.
Ahmed Newton Barry avec moi en studio. Serait-il pour Joe Biden, dans une position délicate aux États-Unis, notamment à cause de la guerre à Gaza, de rassurer une partie de son électorat et notamment l'aile gauche du Parti démocrate avec cette annonce de régularisation?
Et surtout les hispaniques, je pense, qui sont aussi aujourd'hui dans l'électorat américains qui comptent de plus en plus. Mais vous savez, la question fondamentale qui revient au-delà de l'exploitation, je veux dire opportuniste, immédiate par rapport donc à l'enjeu électoral, c'est que les Américains ont du mal avec leurs voisins mexicains dont vraiment ils ne savent pas comment gérer la situation et dont ils ont besoin de se protéger. Et dont ils ont aussi besoin pour l'économie, comme l'a expliqué tout à l'heure mon jeune frère de la Guinée. Donc on est dans une situation ambivalente, mais je veux dire, quand je regarde ça de loin, quand je le compare un peu à ce qui se passe, par exemple, en France, peut-être l'enjeu est important, mais je veux dire, il n'est pas aussi polarisé. Peut-être aussi que c'est parce que Trump a de sérieux problèmes aussi.
Eh bien, justement, en parlant de Donald Trump, cette annonce des régularisations l'a fait bondir. L'ancien président américain a dit, je cite, que si il était élu en novembre prochain, ce projet d'amnistie, je cite, illégal serait déchiré et jeté dès le premier jour. Mais hier, interrogé par les animateurs d'un podcast aux États-Unis, l'homme qui souhaite ériger des murs entre les États-Unis et le Mexique a tenu des propos auxquels on n'est pas forcément habitué. Écoutez.
Quand vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur aux États-Unis, vous devriez automatiquement obtenir une carte verte pour pouvoir rester dans ce pays. Je connais des histoires de personnes qui ont obtenu un diplôme d'une super université et qui souhaitent désespérément rester ici. Ils avaient un projet d'entreprise, un concept, et ils ne le peuvent pas. Ils rentrent en Inde, en Chine, et ils font la même entreprise dans ces pays et deviennent multimilliardaires, employant des milliers et des milliers de personnes. Et ça aurait pu se faire ici.
Donald Trump qui plaide pour la résidence permanente des étrangers diplômés aux États-Unis. Boubacar Sansoubari à Conakry, déclaration sincère ou stratégie de campagne selon vous?
C'est plutôt réaliste. Et vous savez que même Donald Trump, quand on a dit qu'il était opposé à l'immigration, en réalité, lui, il faisait plutôt dans une immigration sélective. Tous ceux qui sont bien formés ont des qualifications susceptibles d'apporter de la plus-value, notamment à l'économie américaine. Non, Donald Trump ne s'est jamais fondamentalement opposé à ce type de migrants.
Alors, Boubacar Sansoubari, on parle quand même de l'homme qui a déclaré en décembre dernier que les migrants empoisonnaient le sang des États-Unis.
Comme je vous l'ai dit, il y a une réalité qui s'impose. On ne peut pas cracher sur l'apport de ces migrants à l'économie américaine. Maintenant, Donald Trump, on le connaît, il fait un peu dans l'instrumentalisation, parce que aussi son électorat est réceptif à ce type de message. Naturellement, il peut surfer sur quelques incidents, quelques images anecdotiques associées aux migrants aux États-Unis. Sinon, dans l'absolu, il n'est pas nécessairement opposé à tous les types de migrants aux États-Unis.
Cécile Goudou à Cotonou, avec cette annonce, Donald Trump ne fait-il pas volte-face? Est-ce qu'avec ses déclarations, il ne risque pas de se mettre à dos une partie de son électorat?
Donald Trump a toujours été vent debout contre les migrants, même les bébés. On connaît l'histoire des bébés à l'arrivée, ceux qu'on récupérait et tout chez les mamans. Donald Trump n'a jamais eu cette nuance, n'a jamais eu ce sens de la nuance à travers les migrants qui frappent aux portes des États-Unis. Donc, il trouve aujourd'hui que les diplômés pourraient rester et travailler. Je dis, wait and see, à la fin de la campagne, on verra si c'est lui qui est élu par les Américains, on verra ce qu'il fera.
Enfin,
j'ai été surprise par cette prise de position de Donald Trump par rapport à la question
surprise.
De la migration.
Enfin, ça sera ma dernière question à Ben Newton Barry. Les États-Unis sont souvent présentés comme une terre d'immigration. Ce pays peut-il réellement se passer des migrants qui travaillent dans de nombreux secteurs d'activité sur place?
À mon avis, c'est extrêmement difficile, hein, puisque d'abord, c'est l'ADN du pays lui-même, c'est l'immigration. Donc, on ne voit pas comment il pourrait du jour au lendemain changer de nature. On peut évidemment, entre deux élections ou au moment des élections, aboutir à un certain nombre de discours opportunistes liés évidemment à la drague des électeurs. Et donc, je pense que ce qu'on constate aujourd'hui par rapport à l'importance de l'électorat hispanique en ce qui concerne les États-Unis, mais aussi une autre réalité qui, de mon point de vue, en ce qui concerne les 500 000, là, c'est déjà des gens qui sont aux États-Unis, qui ont donc des époux ou des épouses américaines, qui donc, du point de vue de la loi, évidemment, sont dans une situation, on ne peut pas les expulser, on est parfois obligé donc de les régulariser.
Et c'est avec le mot et le point de vue de notre confrère burkinabé que nous allons clore ce débat africain. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé, d'avoir apporté vos regards et vos analyses sur l'actualité de la semaine en Afrique et ailleurs dans le monde. Ce débat africain, bien évidemment, vous pouvez le retrouver et le réécouter sur l'application mobile RFI Pure Radio. Merci à l'équipe grâce à laquelle nous vous proposons cette émission chaque semaine. Delphine Michaud à la coordination et Taguimfa Traoré à la réalisation. De Dakar à Kinshasa en passant par Pretoria et Alger, merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.